prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Thème, Dieu trèfle quand tu nous tiens.
Voilà, nous allons ouvrir et lire la plus grande épître de Jean, la troisième, 15 versets, je ne vous dis pas chapitre. Alors, troisième épître, troisième lettre de Jean, verset premier. Voici ce que je partage avec vous, ce que j'ai devant les yeux et ce que nous allons commenter d'ici quelques instants. L'ancien à Gaïus, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères, et même pour les frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ton amour en présence de l'Église. Tu ferais bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu, car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis, sans rien recevoir des païens. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrèphe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi, si je vais, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous de méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, il les empêche et les chasse de l'Église. Bien-aimés, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui pratique le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Voilà, ça c'est notre première lecture. Nous y reviendrons d'ici quelques instants. Je vous propose simplement de lire et de compléter notre lecture première dans le livre des Actes, au chapitre 20 et au verset 28. Donc, Actes, verset 28. C'est un avertissement que Paul donne à l'Église de tous les temps. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi, évêque, pasteur, pour paître l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Voilà, nous allons simplement nous arrêter pour cette dernière lecture. Alors, je vous dirai en préambule, c'est l'histoire d'une église, dans le contexte naturellement apostolique, où un homme fait des histoires à l'Église. Voilà. Alors, c'est pas nouveau, ça. C'est pas quelque chose d'inédit, puisque à travers toutes les épîtres, on s'aperçoit qu'il y a toujours, il y aura toujours, il y en aura malheureusement encore, eh bien, des hommes, des femmes, qui s'introduiront d'une manière ou d'une autre, avec beaucoup de subtilité, beaucoup de pseudo-spiritualité, pour apporter la contradiction, apporter la confusion dans les cœurs et dans les esprits. Il y a d'abord, si vous me le permettez, on va camper un peu cette méditation, il y a trois personnages qui apparaissent. Il y a d'abord l'ancien, vous savez qui c'est le premier donc, il est bien connu, c'est l'apôtre Jean, et il est déjà certainement, eh bien là, probablement très vieux, et il est auteur de cette petite lettre. C'est lui qui a écrit, hein, on l'appelle « Troisième épître de Jean », Jean l'apôtre, voilà. Et nous voyons que c'est une des plus courtes de la Bible. On ne l'appellerait peut-être même pas une lettre, on dirait plutôt un petit billet ou une missive, tout simplement, qu'il adresse au deuxième personnage, qu'il l'appelle du nom de Gaïus. Et Gaïus, en quelque sorte, c'est le responsable de l'Église dans cette localité. C'est lui, on pourrait dire, l'ancien, oui, au sens où eh bien, il a une responsabilité, une connaissance de Dieu. Et il nous est dit de Gaïus que c'est un chrétien authentique, un vrai chrétien. Et de par cela, eh bien, c'est un homme de libéralité, parce que c'est un homme qui est aisé et qui a consacré ses biens au Seigneur à différentes fonctions. Pour que le monde autour de lui vienne connaître Jésus-Christ. Et il a même ouvert sa maison, et sa maison est tellement ouverte qu'il accueille les évangélistes et tous les prédicateurs de passage. Voilà, c'est pour ça qu'il nous en est parlé dans cette petite lettre. Des gens qui sont étrangers, des gens qui viennent, des gens qui sont des envoyés du Saint-Esprit pour édifier l'Église. C'est comme ça que ça se passait, hein, dans l'Église primitive. Et puis enfin, il y a le troisième personnage. Je vais donner des mots, hein, mais ils ressemblent véritablement ils correspondent à ce qu'est véritablement cet homme. Je dirais d'abord que c'est un homme ambigu. Je n'ai pas dit un chrétien, j'ai dit un homme ambigu. Je crois qu'il croit en Jésus-Christ. Mais un homme qui perturbe la communion et qui perturbe la communauté par des agissements très discutables. Ouais. Vous savez que dans l'Église, il y a quand même un comportement. Dans une église, au regard de Dieu, par respect pour les frères et les sœurs, on ne fait pas n'importe quoi et on ne dit pas n'importe quoi. Et je pense que il y a une priorité, c'est l'unité et c'est la paix entre nous. Moi, je crois que le Saint-Esprit est vraiment à l'aise quand les frères et sœurs, eh bien, sont unis et que nous essayons de travailler dans des sentiments d'amour, dans les liens de la paix. Dans les liens de la paix, ça c'est les termes bibliques. Alors cet homme s'appelle Diotrephe. C'est un beau nom, hein, Diotrephe. Et imaginez-vous, parce que j'ai fait quand même quelques petites recherches, Diotrephe, ça veut dire, vous le savez, nourri par Jupiter. Ouais, le grand dieu de Rome, de l'Empire romain, l'équivalent du Zeus grec. Et ça veut dire tout simplement son nom, nourri par Jupiter, et son nom le qualifie sans peine, et je vais vous expliquer pourquoi. Vous savez, il y a des raisons partout, hein, dans ce qui est écrit dans la Bible. On connaît tous l'expression fameuse « sortie de la cuisse de Jupiter ». Alors vous allez me dire, mais où Alain s'embarque ce matin? Ah mais je sais où je vais, hein. Ouais. Sorti de la cuisse de Jupiter. On dit quelquefois, quelqu'un qui gonfle la poitrine, il dit, il n'est pas sorti de la cuisse de Jupiter. Hein. C'est dans un contexte, hein, il faut dire, quand même de l'Antiquité, où la mythologie est extrêmement présente, hein, même du temps de Jean, de l'apôtre Paul, même, c'est l'Empire, hein, l'Empire romain. Alors, et tout cela nous, eh bien, tout simplement, nous renvoie par connotation avec l'image de fierté. L'image d'orgueil, de soif de domination et d'ambition, excusez-moi, mais pour son cas, j'appellerais cette ambition une ambition pathologique. Parce qu'elle le rend malade, et finalement, lui, il rend tout le monde malade. Pathologique. Son nom ressemble à ce qu'il est. Nous, nos noms, hein, nos prénoms, et ça ne veut peut-être pas dire grand-chose. Sinon, il faudrait fouiller dans les origines. Mais quoi qu'il en soit dans la Bible, en tous les cas, surtout les non-juifs, là c'est pas un non-juif, hein, mais toujours est-il que il y a vraiment un sens. Et je dis bien, et je rappelle que son nom ressemble à ce qu'il est. En fait, Diotrephe est un homme qui se croit supérieur aux autres. Quelqu'un qui se prend pour le centre du monde. Le nombril. Je dis ça avec le sourire. Il est imbu de lui-même et il fait, hélas, c'est ça le drame, il fait souffrir l'Église. Voilà. Il y a déjà un pasteur, il s'appelle Gaïus. Il y a celui qui est envoyé par Dieu, c'est l'apôtre Jean, un grand homme de connaissance et qui a véritablement cette communion avec Dieu, et il peut aider finalement, il passe dans les églises pour les aider. Mais il y a au milieu de cette communauté, Diotrephe. Je dirais que, à la limite, la racine de son mal serait la frustration. Vous allez me dire, mais où je vais chercher ça? Eh bien oui, parce que ça se voit. La frustration. S'il y a un problème qui touche tous les hommes, y compris les enfants de Dieu même convertis, ce peut être les frustrations que nous n'avons pas traitées, qui n'ont pas été résolues, qui n'ont pas trouvé véritablement une solution en Dieu. Les frustrations, on en a tous. On vit dans un monde où on peut être frustré tous les jours de ce qui se passe autour de nous. Et, en d'autres termes, Diotrephe, c'est un homme frustré. Et j'aimerais quand même vous donner une petite définition, parce que c'est souvent la racine de grands problèmes, des problèmes de mal parler, des problèmes de mal se comporter, de jalouser, d'envier, de faire toutes sortes de choses. À l'origine, c'est la frustration. Les gens frustrés, il y en a dans le monde. Tout ce que nous ne pouvons pas avoir. Alors, la frustration, qu'est-ce que ça serait? C'est la situation d'un individu contrarié dans ses ambitions et dont la conduite est modifiée par un obstacle ou un événement. C'est une privation de satisfaction à laquelle cet homme frustré prétendait à tort ou à raison. Et ça ne fait pas forcément de bonnes relations. Ça ne fait pas forcément de bonnes réactions. Parce que là, on a quelque chose à l'intérieur qui nous fait souffrir. Et je pense que quelque part, il faut quand même lui accorder à notre Diotrephe, il y avait des choses qu'il faisait souffrir. Mais il fallait savoir si c'était le bien qu'il faisait souffrir ou si c'était le mal. En d'autres termes, il souffrait beaucoup plus par le mal qu'il portait en lui et il le répandait autour de lui que par le bien qu'il voyait dans l'église de Gaïus, y compris dans l'intervention de Jean, et ça, le bien lui faisait mal. Et quand il voyait que ça lui faisait mal, le bien, il répondait en mal. C'est tout. C'est bête une histoire pareille. Mais vous savez, si on parle de ça ce matin, c'est parce qu'on a besoin, l'église a besoin de maturité spirituelle par rapport à des problèmes qu'on a tués, des problèmes qu'on ne parle pas. On donnera des mots, on parlera de certaines choses, ou on l'enveloppera dans un mot générique, le mot péché, mais non, c'est pas ça. Il y a des situations où le Seigneur veut nous tendre la main. Pas seulement pour nous guérir parce que nous avons mal à la tête ou ceci et cela, mais il veut nous guérir dans notre âme, il veut nous guérir dans notre cœur, et il nous parle, et les choses qui ont été écrites d'avance, elles le sont pour notre instruction, nous dit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains. Et c'est tout un programme, mes frères et sœurs. Moi, j'étais interpellé par cela. Alors, de fait, la façon dont se comportait Diotrephe ne parlait pas à son avantage. Ah oui. Quand la Bible nous dit de porter des fruits, alors il y a les bons, il y a les mauvais. Mais lui, c'était plutôt dans le sens mauvais. Alors, on va mettre les choses en place. Qui était-il? Que faisait-il? Et que voulait-il? Parce qu'il y avait naturellement un but. Il poursuivait naturellement un but. Je pense que quand on lit ce genre de choses, on aurait préféré que ce Diotrephe reste dans l'ombre. Pourtant, son attitude, nous dit la parole, est loin d'être spirituelle et positive, bien que lui pense qu'elle est spirituelle et positive. C'est ça la question. C'est que on se heurte à ce moment-là à quelqu'un qui ne pense pas comme il faudrait penser. Et nous savons que son histoire doit servir d'exemple et oblige à un examen de conscience. Parce que Diotrephe, c'est un cas, faut quand même le dire. Mais on est tous encombrés avec toutes sortes de choses dont nous sommes frustrés. La frustration, elle peut venir parfois à travers une non-réussite professionnelle. Elle peut venir à travers parfois des situations de grandes difficultés familiales, frustration conjugale, frustration économique, des ambitions parce que qui n'ont pas été réalisées parce que le niveau d'études ne convient pas ou toutes sortes de choses. On a tous ça, mais on a le Seigneur avec nous. Comprenez? Et c'est ça, alors on peut toujours en parler à l'extérieur, mais nous on a plus. On a plus, on a le Seigneur, parce qu'il veut nous regarder droit dans les yeux, le Seigneur, en disant, voilà, tu souffres de cela. Mais moi je voudrais plus que tu souffres, je voudrais te dire qu'il y a un pont pour passer sur l'autre rivage et tu vas vivre mieux. Et tu vas voir que tu vas pouvoir regarder ce qu'ont les autres, sans véritablement être déchiré à l'intérieur de toi-même. Alors, voilà, les choses sont dites. Je dis que Diotrephe est un chrétien. Oui, on va lui donner quand même le terme. Un chrétien trop zélé peut-être, vous allez me dire, mais c'est une aberration, parce qu'on n'est jamais trop zélé. Mais oui, mais la Bible nous dit qu'il y a un zèle qui est spirituel et un zèle sans intelligence. Trop zélé peut-être, qui ne demande qu'à s'employer à l'œuvre de Dieu, et il est prêt à tout faire dans l'Église. Il est prêt à tout faire, il est là partout, il est à toutes les réunions, il est là dans tous les moments, dans tous les coups, enfin tous les coups, toutes les opérations. Il est prêt à donner la main, mais à une condition, et cette condition, je la rappelle, il est dit ceci, c'est Jean qui dit « J'ai écrit quelques mots à l'Église », c'était pas à Diotrephe ni à Gaius, c'était à l'Église en général. Mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, voilà. Avoir la première place. Il y en a beaucoup qui voudraient avoir la première place. Hein. En 2012, là, il va y avoir une course pour avoir la première place. Puis dans bien d'autres situations. Tout ce qui est une élévation en dignité, en pouvoir, tout le monde veut avoir la première place. Avoir la première place. Et pourquoi ? Parce qu'il se croit quelqu'un d'important. Il prétend faire la loi dans l'Église et jusqu'à mettre tout en œuvre pour empêcher Jean l'apôtre ou encore Gaius qui est le responsable local ou encore même quelques évangélistes visiteurs de venir fortifier la foi des chrétiens. Il apprend la nouvelle que Jean va passer, que Jean a envoyé en tous les cas une lettre et qu'il va y avoir des évangélistes et des prédicateurs, des missionnaires qui vont passer. Et lui, il pense le contraire des autres, alors que les autres se réjouissent en disant, bien, on va avoir les visiteurs, ça va être formidable, on va vivre des moments formidables parce que le Seigneur nous prépare quelque chose de bon. Et lui, dans sa tête, il dit rien, il se dit, attention, moi, il faut que je mette des bâtons dans les roues. Il faut que ça se passe pour moi, il faut que ça se fasse comme moi je le pense, mais pas comme les autres le veulent. Et il n'est pas loin de penser, notre Diotrephe, en disant, ah, si moi j'étais le pasteur de l'Église, je peux vous dire qu'il y en aurait des choses. Ah, je peux vous dire que ça se ferait autrement. Vous verriez, hein, ça serait tous les jours. Il y aurait ceci, il y aurait cela. Je convoquerai le Seigneur à toutes les réunions. Manque pas de souffle. Hein. Oui, mais à la différence, et vous le comprendrez à la fin en conclusion, que ce n'est pas Diotrephe que Dieu avait demandé de faire les choses. C'était à d'autres. Et voilà. C'est vrai que quelquefois on le dit. Ah, il y en a peut-être qui ont pensé ça ces dernières semaines. Ah, si j'étais à la présidence de la République, moi, vous verriez. Hein. Je peux vous dire qu'il y en aurait eu des choses qui auraient été faites. Hein. Ben oui, mais... C'est comme ça. Si j'étais à la place de mon patron. Alors, peut-être pas pour le travail, mais pour l'argent. Eh oui, mais attendez, il ne faut pas confondre entre chiffre d'affaires et bénéfice. Hein. Voilà. C'est ça justement le problème. C'est ça la difficulté. Et nous voyons naturellement sa manière de se comporter. Il refuse de les recevoir. Il tient de mauvais propos. Et son comportement devient hautement répréhensible quand il se permet, je dis bien, d'intercepter une lettre de l'apôtre. Ah ! Lui, il se dit, moi... je suis le secrétariat général de l'Église, je vais dans la boîte aux lettres et quand il y a une lettre, je la prends, je l'ouvre, et c'est moi qui traite. Mais la lettre, elle n'était pas pour lui. Elle était pour lui, mais au milieu des autres, avec tout le monde. Et vous avez remarqué avec moi, l'apôtre Jean dira, mais j'ai écrit quand même quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, il est passé par là. Et ça, c'est répréhensible. Et il va faire à partir de ce moment-là campagne, c'est-à-dire il va être un manœuvrier. Vous savez ce que c'est qu'un manœuvrier ? Rien à voir avec un manœuvre, hein, mais un manœuvrier. Celui qui fait les choses en douce. Et il va faire en sorte, il va faire campagne contre les prédicateurs itinérants que Jean recommande, et même plus, il va s'en prendre aux fidèles de l'Église qui se proposent de leur offrir l'hospitalité. Et il va peut-être leur envoyer les mots, il va peut-être leur dire en disant « Vous ne les recevez pas, hein, vous ne les recevez pas. » Vous savez, ce sont des mauvais prédicateurs, hein, vous savez, vous avez, ce sont des gens qui ne sont pas tout à fait très clairs et tout ça. Et il travaille comme ça. Et il fait son œuvre, parce que ça ne lui plaît pas à lui. Mais Jean est un homme qui est perspicace, il le sait, il a de l'expérience, Jean. Hein. Il le sait. Alors à ce moment-là, il y a quelque chose de terrible qui va se passer. C'est que Diotrephe les chasse sans autre. Il va les mettre à la porte, en tous les cas, il va faire en sorte que la porte soit fermée. Vous savez, il faut faire attention. Hein. Faut faire attention. Il les chasse de l'Église. Lui, il le faisait sciemment, il le faisait avec intention, préméditation. C'était profondément méchant, profondément mauvais, ce qu'il faisait. Mais je crois que quelquefois, on peut faire aussi des erreurs. On peut chasser des gens, involontairement. Parce que bon, on a une idée, on a une pensée, on se dit c'est comme ça et ça ne doit pas être autrement. Mes frères et sœurs, vous savez, moi, je pars du principe hein, qu'il y a des gens qui peuvent s'introduire dans l'Église. Il faut avoir la vigilance et la perspicacité que Dieu va nous donner si on lui demande. Et on n'a pas besoin de pousser les gens avec perte et fracas à la porte. Vous savez, à un moment donné, ils vont bien comprendre le contexte, l'atmosphère, la parole et tout ça, et ils vont sortir tout seuls. Parce qu'ils vont se prendre eux-mêmes les pieds dans le filet de ce qu'ils étaient venus faire, de ce qu'ils étaient venus chercher dans leurs mauvaises intentions, et ils ne vont pas pouvoir se maintenir. Et je crois que ça c'est vrai parfois dans ce qui peut arriver au milieu de nous. Parfois, c'est quelquefois le pasteur qui chasse les gens aussi. Ah oui. Il faut voir les deux côtés. Il ne faut pas non plus dire, voilà, c'est comme ça. Non, mais il les chasse. Et ça, c'est terrible, parce que on se dit, bien sûr que les gens peuvent venir avec leurs habitudes, avec un petit peu leurs coutumes religieuses et tout ça, mais il faut qu'ils réapprennent les choses. Il nous faut du temps. Vous savez, quand on est venu à la conversion, dans l'état dans lequel on est, moi, si on m'avait mis à la porte, si on m'avait regardé au premier coup d'œil, je peux vous dire qu'il fallait m'accueillir. Hein. Il fallait m'accueillir. Ils ont eu du courage. Hein. Ben, ils ont fait confiance au Seigneur. Ils ne faisaient peut-être pas confiance à moi au départ, mais ils ont fait confiance au Seigneur. Et ça, c'est bien. Et je crois qu'il faut quand même. Il faut quand même de la miséricorde et de la grâce. Soyez bons les uns avec les autres. Accueillez-vous les uns les autres. Et même s'il y a des choses où on n'est qu'on n'est pas d'accord, mais vous savez, le Seigneur va les... Je ne fais que citer les paroles de Paul, hein, attention. Hein. Le Seigneur va les édifier, il va les conduire, il va les... Et puis si quelqu'un, fait des explosions, ben, on lui dira, alors à ce moment-là, on lui dira, bah écoute, hein, le royaume de Dieu, c'est la paix et la joie par le Saint-Esprit. Hein. Et là, il va comprendre tout de suite ce que ça veut dire. Voilà, il les chasse. Et ça, c'est terrible. On l'a remarqué, Diotrephe est avide de pouvoir et sa présomption le pousse à prendre des mesures arbitraires, injustes, pour s'arroger la direction des affaires de la communauté. Et il se dit maintenant, moi, tout cela entre mes mains, vous allez voir, ça va rouler. Ça va marcher. Oui, mais l'œuvre de Dieu, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Il y a des fois, on a envie de faire des choses et Dieu nous dit, tu ne les feras pas parce que c'est pas le moment. Il y a des fois, le Seigneur nous dit, tu vas le faire et nous, on n'est pas prêts à les faire. Celui qui dirige l'Église, frères et sœurs, il faut bien qu'on le comprenne. Ce n'est pas Jean, ce n'est pas Gaïus, ce n'est encore moins Diotrephe, mais c'est le Seigneur et le Saint-Esprit. Nous allons le voir d'ici quelque temps. C'est pas le pasteur que je suis. Moi, la seule chose que j'ai à faire, c'est de me tenir devant Dieu pour qu'il me montre ce que j'ai à faire. Et je vous l'apporte par le conseil de Dieu lorsque je prêche. l'évangélisation, dans les réunions de prière, les études bibliques, les cultes, etc., etc. Moi, c'est ça mon travail. Mais je crois qu'il faut le comprendre. Laissons la place au Saint-Esprit. Laissons toute la place au Seigneur et à sa parole. Et le Seigneur, nous le comprenons peut-être diversement les uns les autres, mais à un moment ou à un autre, le Seigneur va nous amener à l'unité de la foi et à l'acceptation, même s'il y a des différences. Et heureusement qu'il y a des différences. Parce que s'il n'y avait pas de différence, ce serait véritablement le régime militaire sectaire. Et ça, nous ne voulons pas. C'est normal. Alors, il veut même prendre la place de Gaius, qui est juste trop faible. Oui, parce que quelquefois, on peut penser que Gaius, il est trop faible. Oh, il devrait faire ceci, il devrait être un peu plus énergique, etc., etc. Donc, Diotrephe juge Gaius trop faible. Et puis, quant à Jean, il le juge trop vieux. Et puis, ce serait un troisième ou un quatrième, il lui trouverait bien des défauts pour dire il est comme ça, il est ceci et cela, puisque son problème, c'est d'être lui, à la place de tous les autres. Ou encore, et ce qui est encore plus grave, c'est que, tout bonnement, eh bien, il se met à la place du Saint-Esprit qu'il juge sous son autorité, soumis à sa volonté, à ses quatre volontés. Ça devient plus grave. Mais remarquez, vous allez me dire, ce que je dis, c'est pas étranger, à toutes les grandes institutions religieuses dans lesquelles notre monde chrétien évolue. Dans certaines grandes communautés, excusez-moi, je dois le dire, mais c'est pas le Saint-Esprit qui agit. C'est pas la parole de Dieu qui fait autorité. C'est un homme ou des hommes qui décrètent ceci, qui décrètent cela. Saint-Esprit, et le Seigneur, on se sert du Saint-Esprit, on se sert du nom du Saint-Esprit. Mais le reste, cependant, vous allez remarquer avec moi, c'est que l'apôtre Jean ne se laisse pas intimider. Oui, parce que l'apôtre Jean, il a connu Jésus. Mais c'est pas parce qu'il a seulement connu Jésus, mais il est vieux de près de 90 ans à l'époque. Et quand on arrive à un certain âge, eh bien, on commence à avoir de l'expérience. La nature humaine, on la connaît sous toutes ses facettes. Alors, il ne se laisse pas intimider. Et il ajoute ceci. C'est pourquoi, si je vais vous voir, je rappellerai les actes que Diotrephe commet, en tenant contre nous de mauvais propos, non content de cela, il ne reçoit pas les frères, et ceux qui le voudraient faire, il les empêche et les chasse de l'Église. L'apôtre Jean, c'est l'apôtre de l'amour. Et Jean dit de l'amour, mais le vrai. Et vous remarquerez que dans l'épître que nous avons ouvert, le mot « vérité » et le mot « vrai » apparaissent 7 fois dans 15 versets. La densité du mot « vrai » et « vérité » dans cette petite missive, 7 fois. Alors, Jean dit de l'amour qu'il ne s'embarrasse pas de fausse charité. Il n'y a pas que lui qui l'a dit, mais il y en a d'autres aussi. Et devant un tel comportement, eh bien, il ne va pas se laisser intimider et que ce comportement l'amènerait à se taire, l'amènerait à rester passif, à laisser faire. Et de dire, oui, il est comme ça, notre Diotrephe, mais on va quand même le garder, il fait partie des meubles. Non ? Ou voire même, amener l'apôtre Jean à se plier à l'autoritarisme prétentieux de Diotrephe. Ou tout simplement d'avoir peur de lui. La parole de Dieu nous demande de respecter tous les hommes, voire plus de les aimer. Mais il y a des gens qui sont répréhensibles dans leurs propos, dans leurs comportements, dans leur façon de vivre même. Et je crois qu'on ne doit pas avoir peur des hommes. Parce que je crois qu'avoir peur des hommes, c'est manquer à notre foi en Dieu. On n'a pas non plus à des gens qui font le mal de demander qu'ils aient du mal. Il y a une chose que l'on peut faire, ceux qui font du mal, de demander que Dieu les arrête de faire de mal. Et il sait très bien faire, le Seigneur. Alors ça prend du temps. Ce sont toutes sortes de sacrifices et de souffrances. Je le comprends. Mais Jean n'est pas prêt à se laisser faire. L'authentique amour fraternel n'est ni mollesse, ni faiblesse. Il est agissant. Il est éducateur, il est ferme, quand bien même ce qui vient de l'Esprit, du Saint-Esprit, de l'Esprit de Christ, de l'Esprit de Dieu, dérange et n'est pas toujours compris. Vous savez, il y a des fois, il y a des conduites dans l'Église qui sont données par le Seigneur. Où c'est très difficile d'expliquer aux autres. Et c'est pas simple de gérer des situations. Mais quand il y a une conduite de Dieu, à terme, tôt ou tard, les choses vont rentrer dans l'ordre. C'est pas souvent compris, ni reçu. Et ça, c'est la responsabilité des conducteurs spirituels. C'est la responsabilité des frères anciens. C'est la responsabilité de tous ceux qui ont une tâche, un devoir. Et pour le bien de l'Église, je dis bien, est toujours en vue de la paix et de l'unité, de la justice, de la vérité, d'être dans la lumière. Et Jean dit, si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet. Et entre autres, il a certainement l'intention, Jean, de dire, je vous ai envoyé une lettre, est-ce que vous l'avez reçue? Ah non, elle n'était pas en recommandé. Est-ce que vous l'avez reçue, la lettre? Alors, je rappellerai les actes qu'il commet. Alors, dans le meilleur des cas, et on va plaider pour Diotrephe maintenant, dans le meilleur des cas, si Diotrephe s'humilie, il aura appris à se connaître lui-même, il aura appris à connaître sa nature, son orgueil, son ambition et sa jalousie, son envie d'être le premier, et à ce moment-là, l'Église entière en retirera du même coup une sage exhortation à la vigilance. C'est-à-dire que Diotrephe aura été un mauvais exemple, c'est vrai, mais un exemple positif quelque part, parce qu'il s'est repenti. Et moi, je bénis le Seigneur de ce que j'ai vu dans mon ministère, des hommes qui ont commis des erreurs, qui ont fait des choses, et qui sont revenus vers Dieu, qui sont revenus vers l'Église en disant « Oui, je me suis trompé. » Qui ont pris la méthode de David, quand Nathan lui a dit « Mais tu es cet homme-là », il a dit « Ben, je discute pas, c'est comme ça, et puis c'est tout. » Et vous savez que ça, c'est beau, c'est courageux de le faire. Et après, ça sert à toute l'Église. Et l'Église dit « Ben oui, il y a l'œuvre du Saint-Esprit au milieu de nous. L'œuvre de la repentance. » Mais qu'est-ce qui ressort de la forte personnalité de Diotrephe? Parce qu'il faut quand même le souligner. S'il est comme ça, Diotrephe, c'est que ce n'est pas un tendre, ce n'est pas un mou, c'est quelqu'un qui a du caractère. C'est bien d'avoir du caractère. Vous savez, des hommes comme Moïse, ils avaient du caractère. Des hommes comme Paul, ils avaient du caractère. Même notre apôtre Jean, il avait du tempérament, fils de Boanerges. Ça vous dit quelque chose? Mais le tempérament, il n'est pas fait pour faire souffrir les autres. Il est fait justement pour être pris en sous-main par le Saint-Esprit et être transformé et changé à la gloire de Jésus. Et on le voit chez Moïse, on le voit chez Paul et puis chez d'autres. Alors, la personnalité de Diotrephe. Diotrephe a cette fâcheuse propension à vouloir, nous l'avons dit tout à l'heure, à être le premier. Dès que quelqu'un passe devant lui, c'est une vue de l'esprit, mais... Quelqu'un qui lui fait de l'ombre, alors l'autorité de ce quelqu'un le gêne. Il se dit, mais on m'a pas vu aujourd'hui. Il aurait aimé être salué. Bon, quelquefois, on voit pas tout le monde. Il aurait aimé qu'on lui dise « Monsieur Diotrephe ».« Monsieur », comme vous voulez. Vous savez, toutes les situations de pouvoir amène des titres et des fonctions et toutes sortes de choses. Et l'homme n'est pas peu fier. Et pourtant l'homme reste un homme. Qu'il soit ceci ou qu'il soit là, il faut quand même qu'il n'oublie pas qu'il reste un homme. Et que ce que nous sommes aujourd'hui, nous le sommes par la grâce de Dieu. Par la grâce du Seigneur. Et ça, il faut que ça rentre, parce que on voit le monde comment il va un petit peu en déliquescence avec toutes ces histoires. Les titres, les cartes de visite et tout ce que vous voulez... Et attendez, je ne parle pas du monde seulement, je parle de l'Église. On n'est pas peu fier de ce que l'on est, mais ce que l'on est, on n'est rien. On est seulement parce que Jésus est. Parce que Jésus est, c'est tout. Alors, le vrai problème chez Diotrephe, c'est qu'il s'identifie trop souvent, trop facilement, il identifie trop souvent l'Évangile, la profession de foi, sa place dans l'Église, avec sa personne, et il prend son succès pour les victoires de Dieu. Il se dit, oui, c'est grâce à moi. Figurez-vous, c'est grâce à moi si on a eu un bon culte ce matin. C'est grâce à moi, parce qu'il y a eu des chants extraordinaires, mais... Ouais, mais bon. Quelquefois, il n'aurait pas été là, ça aurait été mieux. Il aurait au moins laissé respirer et chanter les autres. Pauvre Diotref, excusez-moi, mais pauvre Diotref. Parce que là, c'est une indigence, c'est une pauvreté. Je dis pauvre, pourquoi ? Parce que notre ami, là, avait jamais retenu les paroles de Jésus sur l'humilité. Et qu'est-ce que nous dit Jésus sur l'humilité ? Qu'est-ce que Jésus a enseigné à ses disciples sur l'humilité ? Et quand il a enseigné ça à Jésus, il y en avait un qui était là, c'était l'apôtre Jean. Et qu'est-ce qu'il est dit dans Jean, que je retrouve la référence ? Non, c'est pas dans... Excusez-moi, c'est dans Luc, au chapitre 14. Voilà, je vais retrouver tout de suite. Chapitre 14, versets 7 à 9, il est dit ceci... Jésus adressa ensuite une parabole aux conviés en voyant qu'ils choisissaient les premières places. Et il leur dit, « Lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus éminente que toi, et que celui qui vous a invité l'un et l'autre ne vienne à te dire, cède la place à cette personne-là, tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place. » Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que quand celui qui t'a invité viendra, il te dise « Hé, mon ami, tu montes plus haut !» Alors cela te fera honneur devant tous, devant tous ceux qui seront à table avec toi. Je voudrais faire une petite remarque. Dans l'église, prenez donc les premières places. Ah ouais, je comprends pour ceux qui se mettent toujours derrière. C'est que vous voulez la première. Non, c'est un clin d'œil, hein. Non, vous m'en voulez pas, hein, j'espère. C'est bien. De fait, Diotref est un homme entreprenant. Je dirais aujourd'hui, si on veut prendre un terme moderne, un battant. Eh oui, il y a des battants dans le monde, il y a des battants aussi dans l'Église. Sa façon d'agir est que s'il ne peut pas s'imposer, il s'interpose. C'est ça un manœuvrier. Il ne peut pas s'imposer, alors il s'interpose. Pour s'imposer. Là où il ne peut régner, il divise. C'est logique, hein ? La première bonne chose que Diotref aurait à faire, c'est de s'effacer pour laisser davantage la place au Seigneur du genre. Ce que Jean-Baptiste disait, en parlant de Christ, « Il faut que Christ croisse et que moi, eh bien, vous connaissez bien votre Bible, que je diminue. » Voilà. Que de débats causés dans les églises de tous les temps par les diotrèphes. Lesquels diotrèphes n'ont jamais pris conscience des méfaits engendrés par leurs intrigues ? Ouais, ils disent « Oh ben moi ce que je fais c'est bien, et puis le Seigneur m'approuve, et puis j'ai raison, je suis dans le vrai, si j'ai fait ceci, si j'ai fait cela, je fais ça pour la gloire de Dieu. » Donc il y a une part d'inconscience quelque part. Si Diotref avait ouvert les yeux autrement que sur lui-même, il aurait vite réalisé qu'en dépit des apparences, oui, le Saint-Esprit, je dis bien le Saint-Esprit, n'a jamais été avec lui. Non ? Et que ce qu'il croyait être spirituel n'était que l'aberration d'un orgueil camouflé. Voilà, le Saint-Esprit n'était pas avec lui. Quelle découverte ! Vous savez, les gens qui font du trouble, moi je dis que le Saint-Esprit n'est pas avec eux. Le Saint-Esprit est un esprit de paix, un esprit de bienséance, mais le Saint-Esprit n'est pas avec ceux qui font le trouble et le désordre. C'est pas possible, le Saint-Esprit ne peut pas être avoir ces deux natures. Le bien et le mal, la haine et puis l'amour, la lumière et les ténèbres. Et pourquoi ? Pourquoi il n'avait pas vu que le Saint-Esprit n'était pas avec lui ? Parce qu'il était resté totalement étranger à cet esprit qui préside à la conversion. Et je veux bien dire que Diotref avait cru en Jésus. Il avait cru dans le message du royaume de Dieu. Je veux bien croire qu'il s'était converti. Oui, oui. C'est-à-dire qu'il avait suivi Jésus. Mais il y a une chose qui lui manquait. Il n'était pas né de nouveau. Ou alors, s'il était né de nouveau, eh bien, la vieille nature, l'esprit de renoncement, l'esprit de porter sa croix et l'esprit de mourir à soi-même étaient totalement et complètement absents. Et les fruits, ils sont là. Ce n'est pas de dire « je crois en Jésus-Christ » que je suis chrétien. Ce n'est pas de dire « je me suis converti à Jésus-Christ » ou « je me suis repenti ». Non, il y a quand même les trois éléments. Il y a la nouvelle naissance, la vie de l'esprit en nous. Et c'est tout un travail, hein. Ça ne se passe pas du jour au lendemain, mais enfin, en tous les cas, il y a quand même quelque chose qui est manifesté. Ça se manifeste et ça se voit à travers les fruits. Et le premier fruit, c'est l'amour et l'humilité. Alors, il était resté étranger, d'où sa dureté. Et évidemment, il pouvait se permettre d'être dur avec les autres puisqu'il pensait qu'il était le centre du monde. Sa froideur, sa suffisante, et à se croire au-dessus de tous. Être le premier. Vouloir dominer. Avoir ce que l'on appelle dans notre langage la haute main sur tout, en tout et partout, régenter, contrôler. Voilà ce que voulait dire Diotref. Mais il ne sait pas qu'il est sous le coup d'un terrible jugement de Dieu. C'est son aveuglement spirituel qui obscurcit la vision de lui-même, de soi, et le laisse en dehors de l'action transformatrice du Saint-Esprit. C'est un homme qui ne fera jamais de progrès. C'est un homme que Dieu ne pourra jamais se servir. Même s'il parle bien, même s'il a des talents, même des capacités, c'est pas dans ce domaine-là que Dieu pourra se servir d'un tel homme. Parce qu'il n'est pas un agent, il ne peut pas être un agent, il ne peut pas être dans la conduite et le souffle du Saint-Esprit. C'est pas possible. Et on le comprend aisément. Je dirais que c'est un amour prééminent, un amour déréglé du moi, et c'est une preuve évidente de la survie de la vieille nature chez Diotref. Ouais. On en revient toujours à la même chose, hein, je l'ai dit il y a un instant. Hein. Survie. Le vieil homme n'est pas mort. Le moi est encore bien vivant, hein, il se défend. Hein. Ah, il n'est pas prêt de laisser la place. Il n'est pas prêt de dire qu'il a tort. Il accuse, mais lui ne s'accuse jamais. Hein. Il peut toujours fustiger les autres et les condamner. Lui, aucun problème, il est au-dessus. À l'exemple un petit peu de ce que était cette société des pharisiens. Et le plus grave pour Diotref, je dis bien le plus grave parce que si ça existe à l'extérieur, le plus grave, c'est qu'il se récupère dans la vie de l'Église et dans la piété. Et ça, c'est encore plus grave pour aux yeux de Dieu. Il se sert de l'Église, et il se sert de la piété, de la foi, de sa connaissance biblique pour se hausser, pour dire « moi, je suis un grand personnage ». Alors que finalement, le sens est vers le bas. Plus nous sommes petits, plus nous serons grands. Plus nous voulons être grands, plus nous serons abaissés. Celui qui est honoré de Dieu, ce n'est pas celui qui est servi, c'est celui qui sert. Et pour servir, c'est faire l'abnégation de nous-mêmes, tout simplement. Et la gravité de son cas, c'est qu'il se sert de l'Église et il se sert de la piété, il se sert de la foi. Je le répète. Très rapidement, je vais finir. L'histoire de l'Église, en général, 21 siècles de christianisme, en passant par les plus grandes institutions religieuses, que je qualifierais de monarchisées, de hiérarchisées, de cléricalisées, est encombrée de Diotref. Tenir cette conversation au XVIIIe siècle me valait soit les galères ou le bûcher. Hein. Merci Seigneur de ce que nous vivons dans une société démocratique et de ce que nous avons la liberté de conscience. Et moi je ne le dis pas de moi-même, je le dis parce que la parole de Dieu le dit. Je dis bien encombré de Diotref, lesquels en piétinant le principe biblique du « quiconque s'élève sera abaissé », on fait taire trop souvent la voix du Saint-Esprit et de la parole de Dieu pour leur substituer la voix dominante des nouveaux dictateurs ecclésiastiques. Wow. Dur, hein? Ouais. Et devenir les porte-parole de Dieu et de régner à la place de Dieu sur le peuple de Dieu. Ouh, c'est terrible, hein, ça. Alors, on peut le voir à l'extérieur. On a souvent critiqué certains comportements, certains faits. Mais faisons attention que ça n'arrive pas aussi chez nous. Hein. Eh ouais, ça peut arriver. Hein. où on pense tellement qu'on est indispensable, que l'Église ne peut pas fonctionner sans. Moi, mon pasteur disait toujours, et on arrive à la Toussaint, que les cimetières sont pleins de gens indispensables. Ah oui? Alors si vous voulez m'envoyer des chrysanthèmes, envoyez de mon vivant parce que j'aime bien les fleurs. Eh oui. Non mais c'est vrai. Ça revient toujours à la même chose. Vous savez, c'est le Seigneur qui est le maître. C'est le Seigneur qui est souverain, ce n'est pas les hommes. Bénissons le Seigneur que Dieu ait donné des dons aux hommes. Dans la mesure où ces dons restent dans l'humilité. Que le Seigneur soit toujours à la première place. Quand on observe le Nouveau Testament, on découvre aisément plusieurs diotrèphes. Il y a les judaïsants dont Paul parle. Alors, il nous en dit en quelques mots, comme ça, ça va vous donner une petite idée de ce que peut être le caractère même de ces gens qui ont travaillé, qui ont traversé l'histoire. Dans Philippiens, par exemple, il est dit ceci, au chapitre 3, versets 18 à 19, il est dit ceci, donc chapitre 3, versets 18 à 19, voilà. Il parlera, il dira, il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. C'est Paul qui dit cela. Leur fin sera la perdition, ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Voilà, ça c'était les judaïsants. D'autres diotrèphes qui ont traversé l'histoire, ce sont les forcenés de la pensée légaliste. Dans Galates chapitre 5, où Paul parlera également de cela au chapitre 5 et au verset 2-4. Voici moi Paul, je vous dis que si vous faites circoncire, c'est-à-dire l'application légale de la loi, Christ ne vous servira de rien. Et j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire, qu'il est tenu de pratiquer la loi entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Il n'y va pas quand même avec des mots faciles à entendre. Et au verset 12, il est dit ceci dans ce texte, « Puisse-t-il être retranché tous ceux qui apportent le trouble au milieu de vous ?» Il y a les déviationnistes également, qui font partie des diotrèphes de l'histoire. Dans également Apocalypse, chapitre 2, il est dit cette parole, chapitre 2, verset 14, simplement, « Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignaient à Balak de mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. » Voilà. Ça fait partie des diotrèphes de l'époque qui avaient pris la main, avec des fausses doctrines. Il y a les Élimas, ou les Bar-Jésus dans l'Évangile, dans les Actes des Apôtres au chapitre 13, qui faisaient opposition pour que le procureur, Paulus, n'entende pas le message de l'Évangile. Oui, il voulait être le premier lui aussi. Et c'était un magicien, c'était un occultiste. Lui, il avait son inspiration directe et on savait d'où il venait, naturellement. Il y a les Alexandres, aussi les diotrèphes du temps. Dans 2 Timothée, c'est Paul qui en parlera avec beaucoup de souffrance. 2 Timothée chapitre 4 et verset 14, il parle, il dit « Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal, dira-t-il. » Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. C'est pas lui qui juge, hein, Paul. C'est le Seigneur qui jugera. Et il dira à Timothée, garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Voilà. Toujours le même problème. Moi, ce que je voudrais vous dire, que quand on a une responsabilité dans l'œuvre de Dieu, vous savez, on a des adversaires. Mais il faut pas y faire trop attention, parce qu'on ferait rien. On ferait rien. Et l'apôtre Paul nous en parle. Il y a les Hyménées et les Philètres. Ça vous dit quelque chose, ces noms-là? Déviationniste aussi. Je termine, verset 11. Bien-aimé, il est dit ceci. Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'est point ou n'a pas vu Dieu. En d'autres termes, l'apôtre Jean dit à Gaius et à l'Église, quelqu'un qui fait le mal, c'est quelqu'un qui ne sait ni ne connaît rien de Dieu. Étranger à la vie de Dieu, étranger à l'esprit de Dieu, étranger à la parole de Dieu. Ouais. C'est un avertissement à tous les chrétiens en général, mais en particulier à tous les chrétiens mal affermis. Car l'imitation est chose facile. On peut entendre et on peut voir beaucoup de choses. Et on est à même. On n'a pas à se mettre la tête sous un capuchon noir. Non, mais on est dans le monde. On est dans ce monde. Et même dans l'Église, il y a des choses qui appartiennent au monde. Car l'imitation est chose facile, d'autant plus au risque d'être emporté loin de Dieu lorsqu'on est sensible aux égards. Lorsque l'on est sensible aux distinctions humaines, lorsqu'on est sensible aux honneurs, aux premières places, à vouloir être reconnu, à vouloir être aimé à tout prix, à être mis en évidence, à faire parler de soi en louange, parce que nous avons un nom, parce que nous avons un renom, parce que nous avons un titre, parce que nous avons une fonction. Mais la parole de Dieu, ne serait-ce que le livre d'Ecclésiaste nous le dit, « Vanité des vanités, tout est vanité ». Un chrétien, un pasteur, un responsable ne se nourrit pas de vanité. C'est comme ça. On est aimé ou on ne l'est pas. Bon, on fait en sorte de pouvoir faire quand même en sorte de rendre un bon témoignage de la personne de Christ et de la personnalité de Christ en nous. On n'est pas parfait, loin d'être parfait. Mais quand on cherche, finalement, à avoir l'adhésion des gens, les applaudissements et ceci et cela, je peux vous dire que on est sur une mauvaise pente. À retenir ceci pour conclure. Vouloir capter l'attention, voire l'admiration d'autrui, c'est perdre à brève échéance notre qualification spirituelle. Nous aurons peut-être une réputation religieuse. Nous aurons peut-être une réputation d'être ceci et cela, d'homme de bien et tout ça, mais notre qualification spirituelle, zéro. Il n'y en aura pas. Parce que c'est comme ça. Regardez comment Jésus a marché. Regardez comment Jésus a vécu. Comment il a repoussé à combien de fois lorsqu'il était dans la capacité, et lorsqu'il a eu la capacité, et il l'avait, de faire des miracles. Il disait, n'en parlez à personne. La gloire, elle revient à mon Père, elle ne revient pas à moi. Et il aurait pu s'approprier la gloire. Quand un jour on a voulu le faire au roi, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est faufilé pour partir. Oui. Perdre sa qualification spirituelle. Je reviens à Paul. Il dit ceci, « Je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais à revêtir des sentiments modestes, n'aspirez pas à ce qui est élevé, laissez-vous plutôt attirer par ce qui est humble. » Veillons à ce qu'il n'y ait pas au fond du cœur de chacun, au fond de notre cœur, un petit Diotrephe. Oui, eh, il n'est pas grand. Mais si on le nourrit, il va devenir grand. Eh, ça, c'est toujours le principe. Que si vous nourrissez, si vous caressez, si vous applaudissez, si vous lui dites, mon petit Diotrephe, t'es beau, t'es magnifique, t'es quand même le meilleur, t'es le plus beau, t'es le plus savant, t'es le plus intelligent. Vous allez voir que le petit Diotrephe, il va devenir un grand Diotrephe. Ça, c'est clair. Parce que il peut y avoir des Diotrephes qui sommeillent comme ça. Et tôt ou tard, moi, je vais vous dire ce qui va se passer. C'est que plus il grandira le Diotrephe, plus Christ sera détrôné. Eh oui, il sera détrôné et il sera vite remplacé par le moi dictateur. Et la dictature, eh bien, elle se fait, c'est vrai, dans l'Église. Elle peut se faire dans le monde extérieur si nous avons quelques positions, finalement, eh bien, d'autorité. Elle peut se faire dans le couple, elle peut se faire dans la famille. Le petit dictateur, il est dictateur sur toute la ligne. On en a parlé de l'Église. Alors attention, parce que ça, c'est aussi l'enseignement de l'Évangile. Et ce que j'ai dit ce matin, il y a plusieurs cas comme ça, il y a plusieurs situations comme ça dans la Bible. Je pense que nous avons vraiment besoin de laisser croître, eh bien, la personne de Jésus. Et n'oublions jamais ceci. Écoutez bien, ce sera le dernier mot. Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, mais celui que le Seigneur approuve. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Que Dieu nous donne sa grâce et qu'il nous aide à faire des progrès. Seigneur, moi, ma prière ce matin, eh bien, c'est celle-ci. Seigneur, je veux te rendre grâce et te remercier Et je veux emprunter les paroles de, en effet, de Jean-Baptiste, qui disait de lui-même, alors qu'il avait reçu une extrêmement grande mission d'introduire le Messie, le précurseur du salut, eh bien, nous croyons, Père, que Jean-Baptiste pouvait dire, eh bien, Seigneur Jésus, il faut que tu croisses dans mon cœur, que tu croisses dans ma vie, dans mon esprit, pour que moi je diminue. Et je veux te rendre grâce et te remercier. Merci pour la leçon de Diotrephe ce matin, parce qu'elle nous enseigne, elle nous fait rentrer, elle nous fait pénétrer dans toutes les subtilités de ce que tu as voulu nous laisser à travers la plume de l'apôtre Jean, pour nous montrer que ce n'est pas une belle histoire, mais c'est l'histoire de tous les temps, c'est l'histoire de tout le temps, et que nous avons besoin de nous approcher de toi, pour que Jésus soit mis sur le trône, et qu'ainsi, Seigneur, il puisse régner. Régner dans nos cœurs, régner dans nos vies, régner dans nos familles, et régner sur l'Église, pour régner parce que tu reviens bientôt, régner sur le monde. Merci mon Dieu, merci Jésus. Amen, amen.